Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 106e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caf.
Bonjour, 106e épisode, c'est un truc belge, comment ça se passe?
Ah c'est possible, tiens, mais c'est vrai que je fais de moins en moins attention à ça. 106e épisode, on va dire,
et allez. Voilà, non mais j'aime bien parce que tu vois, maintenant qu'on t'a remis dans ton élément, on va revoir des trucs du coin en fait.
Hein. Oui,
c'est très bien,
oui,
c'est notre façon à nous de voyager pas cher. Merci beaucoup. Merci Fast.
Alors tu voulais reparler d'un sujet dont on a déjà parlé la semaine dernière pour apporter quelques précisions, c'est l'Analog Pocket.
L'Analog Pocket, c'est la petite console qui va faire tourner des titres d'un autre âge. Je voulais pas vraiment en reparler parce qu'on a déjà une conduite très chargée, mais c'était pour vous dire que dans le billet qui accompagne ce podcast, tu vois, il faut qu'on fasse cette macro, il y a un link vers un article de minimachine.net qui est fait par un copain qui est très instructif parce qu'en fait j'ai pas beaucoup parlé de ce qu'était le FPGA. Ouais. Et du coup, j'ai pas bien expliqué un truc hyper important, c'est que l'Analog Pocket ne fonctionne pas en émulant, enfin pas avec un émulateur software pour faire tourner les logiciels de vos Game Boy et compagnie. C'est vraiment la puce qui va se mettre au niveau du code, en fait. C'est l'émulateur, c'est la puce qui va en fait le faire et qui va, c'est tu programmes directement le hardware. Et du coup, t'es censé avoir une émulation parfaite ou en tout cas proche de la perfection. Et ça change tout. Et c'est un truc qu'ils ont déjà fait sur des consoles de salon, en fait. C'est donc pas des amateurs. Mais là, on attend de voir ce qu'ils vont faire avec cette version portable, dont les rendus 3D sont ultra sexy, et c'est pour ça que tout le monde en a parlé, parce que évidemment, le projet est non seulement intéressant par rapport à ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser les cartouches d'origine de vos différentes machines dans la console, mais ça va se hacker assez vite, à mon avis, et du coup, tu pourras balancer des ROM direct inside, même si officiellement, ce n'est pas le but du jeu. Donc voilà, je voulais préciser ça, je vous mets le petit lien qui va bien dans le biais du podcast et vous irez lire tout ça.
Et puis tu voulais reparler de Disco Elysium puisque ça y est, t'as eu le temps d'y jouer.
Ouais, alors je confirme tout le bien qui en a été dit et je voulais juste préciser un truc que j'ai complètement oublié de dire moi-même la semaine dernière, c'est qu'effectivement tout est en anglais et très soutenu, donc là tout le monde dit ah bah oui mais c'est compliqué quand même, faut un dico, et là moi je dis bah fallait pas voter la loi Toubon hein, déjà et faites un effort parce que effectivement non, c'est, je comprends hein, que ça soit un vrai frein, mais déjà pour vos carrières professionnelles, parler anglais c'est pas mal. Et deuxièmement, non, vraiment, ça mérite. Vu la masse de textes, je pense qu'il n'y aura jamais de version française. Et moi, ça me désole parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui aiment bien les RPG verbeux, mais qui, l'univers est hyper intéressant, le personnage est hyper intéressant, enfin, la galerie de personnages, même, ils sont vraiment ultra bien écrites. Mais du coup, bah, il y a plein de gens qui vont passer à côté, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je voulais m'en excuser parce qu'en plus, j'ai complètement oublié de le préciser la semaine dernière. Donc si vous l'avez acheté et que bah, vous n'avez pas pu trouver la version française, bah, insultez-moi. Voilà.
Allez, on passe au cœur de notre sélection avec Manifold Garden.
Bon, alors ça, il n'y a pas de texte, tout va bien. Tout va bien. C'est un titre qui est fait par pratiquement un mec tout seul qui s'appelle William Shear. D'ailleurs, son studio s'appelle William Shear Studio, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et c'est le fruit de 7 ans de développement, mon ami. Donc 7 ans sur le même projet, moi, je suis toujours admiratif. Ouais. Hein, parce que, tu vois, il ne faut pas se décourager, il faut que ça sorte, etc. C'est un titre assez particulier, c'est un puzzle game, en fait, basé sur l'œuvre de Escher. Alors, on a déjà eu des jeux un peu dans cette optique avec Echo Chrome ou Antichamber. Je vous ai linké le papier de Game Cult avec le trailer qui va bien parce que, alors en podcast, Manifold Garden, il se vend pas bien. Hein. C'est-à-dire que c'est un puzzle game. Escher, si tu vois pas ce que c'est,
oui, si,
si tu vois pas les
c'est très
jeux,
visuel, quoi.
Voilà, c'est très visuel. C'est des jeux de perspective hyper compliqués, enfin hyper compliqués qui te retournent la tête. Et Manifold Garden, en fait, utilise ça dans tous les puzzles. Enfin, dans tous les puzzles, très très rapidement dans les puzzles, pour justement essayer de faire fondre les neurones. Moi, ça marche pas trop mal. Enfin, en même temps, il faut pas beaucoup d'efforts hein, pour faire fondre mes neurones sur ce genre de truc. Donc, c'est disponible sur l'Epic Game Store et Apple Arcade. C'est magnifique, mais vraiment, c'est-à-dire que le design est ultra réussi et les puzzles sont, comment vous dire, des fois, bah, au tout début du jeu, parce qu'en fait, au tout début du jeu, tu comprends pas forcément à quelle sauce tu vas être bouffé. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout l'œuvre de Escher, il faut savoir que comme il joue sur les perspectives, donc déjà il y a au tout début du jeu, on t'explique que tu vas marcher sur les murs très rapidement. Donc en fait, une pièce n'a pas vraiment de haut et de bas. C'est un peu toi qui va décider où est le haut et où est le bas, et tu vas te balader dans cette pièce pour mettre les petits blocs là où tu dois les mettre pour ouvrir en fait le passage pour continuer d'avancer dans le niveau. Mais il y a des moments où tu arrives et tu fais genre, bah là, je suis au bord d'un précipice et je ne sais pas comment aller dans l'autre pièce. Mais en fait, le bâtiment dans lequel tu es, il est répété à l'infini partout dans l'univers. Donc d'accord. En fait, tu sautes dans le vide et t'essayes de te retourner pour savoir où est-ce que tu pourrais te retrouver dans ce même bâtiment. En fait, c'est pas d'autres bâtiments, et au fait, au départ, tu le comprends pas forcément. Enfin, tu le comprends relativement vite, mais c'est pas non plus une évidence. Et du coup, c'est si vous avez un peu de motion sickness quand vous jouez aux jeux vidéo, déjà, oubliez tout de suite, hein, parce que celui-là, il fait très mal à la tête et au cœur, et vous allez être gerbi gerba assez vite. Si vous avez pas ce genre de problème et que vous aimez bien les graphismes épurés et les trucs qui font vraiment travailler les neurones, allez-y. C'est du très très bon. Je crois qu'il a eu 7 sur 10 chez nos amis de chez GK, et je suis d'accord avec les points négatifs et les points positifs. Je veux pas spoiler le test, mais très clairement, c'est la lisibilité hein, qui est la problématique. C'est très très beau, mais des fois c'est pas méga lisible, c'est-à-dire que tu vois pas bien où tu dois aller. Donc forcément, c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je trouve que le fait qu'ils aient utilisé comme ça la gravité, que le jeu soit aussi beau avec une musique aussi bien foutue, il y a des effets sonores aussi qui sont ultra zen dedans, font que si vous aimez ce genre de titre et si vous aimez les trucs un peu calmes et que vous êtes pas accroché au Battle Royale comme étant le voilà, Fortnite c'est la vie. Après, il n'y a plus rien. Non, essayez, ça va vous faire du bien. Vous allez voir, ça va vous changer.
Déjà du neuf du côté de Noita.
Alors, Noita, c'est donc le jeu dont on avait parlé qui est en développement. Et alors, le gars rigole zéro. Enfin, les gars rigolent zéro. Noita, c'est, on avait galéré pour savoir comment ça se prononçait. Maintenant, on a décidé. Hein, c'est Noita. Ouais. Alors, j'en mets une couche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un papier qui est sorti chez Rock Paper Shotgun, qui est en anglais, donc, qui est une déclaration d'amour hein, d'un des testeurs de chez eux à ce titre, en expliquant que le côté back à sable, et donc chaque pixel est simulé. Pour ceux qui ont oublié Noita, vous êtes un petit magicien, vous devez avancer dans un monde et découvrir des choses, et le jeu est en développement, donc il manque encore plein de trucs, mais ça n'empêche pas plein de gens de le streamer et plein de gens d'y jouer, et moi plus j'y joue, plus je me dis que c'est un de mes jeux préférés de 2019.
Ah ouais, carrément.
Et en plus il coûte genre moins de 20 balles sur le GOG, enfin sur GOG, donc je l'ai pris direct, et je pense que j'ai un nombre d'heures déjà stupide, hein, on va le dire. Et surtout qu'en fait, là, je suis en train d'y jouer et tu te dis, donc, bah oui, mais quand le jeu va être fini, tu vas pas y jouer parce que bah tu as trop joué avant. Souvent, les gens disent ça avec trucs en développement. Bah, avec Noita, je pense que le truc est tellement en train d'évoluer que c'est pas très grave, dans le sens où il y a déjà, là, ils ont rajouté deux trucs hyper importants, c'est qu'il y a déjà plein de nouveaux sorts qui ont été rajoutés, donc chaque sort va déjà changer les interactions que vous pouvez avoir avec le monde, donc du coup, c'est à chaque fois, ça renouvelle vraiment le plaisir de jeu, et en plus, ils ont ajouté un truc qui, à mon avis, va donner un résultat de gueudin, c'est les mods, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vrai support des mods à l'intérieur du jeu, donc il y a déjà plein de trucs qui sont sortis, dont un que je vais installer dès la fin de ce podcast, qui est un god mode pour pouvoir
bravo
pour pouvoir explorer le truc, parce que la moitié du temps quand vous testez des sorts, en fait c'est pas les ennemis qui vous butent hein, c'est vous qui vous flinguez en testant un truc, faut quand même être honnête. Et surtout il y a déjà des trucs débiles avec des lightsabers, des choses comme ça, évidemment mais comme tu peux combiner les sorts et combiner les potions pour faire des trucs, c'est sans fin quoi. Donc voilà, je voulais en reparler parce que il mérite vraiment d'être suivi. On en reparlera encore quand il va sortir, s'il y a un patch de ouf qui sort, j'en reparlerai parce que vraiment c'est mon coup de cœur, et c'est un jeu solo qui permet vraiment de se vider la tête, et en ce moment moi ça vaut de l'argent un jeu comme ça. Voilà,
on va partir du côté de la Corée avec des nouvelles de Krafton Game et un jeu qui s'appelle Mistover.
Alors on va aller très vite. Krafton Games, pour ceux, c'est même Krafton Game Union, le nom complet, c'est les mecs en fait qui ont fait PUBG et Terra, qui ont fait une boîte en commun. Et Mistover, en fait, c'est un roguelike dungeon crawler qui est sorti sur Switch, Steam et PS4 très bientôt. On n'a pas la date pour la PS4, je suis désolé. Avec un look à la Darkest Dungeon en version manga. Alors je sais, Darkest Dungeon manga, les gens vont pas forcément visualiser. Bon, vous irez voir deux screenshots, vous allez tout de suite comprendre. C'est un jeu qui est avec des reviews très clivantes, très clivé, en tout cas sur sur Steam. On n'est pas dans le jeu où tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial, parce que en fait, pour l'instant, il y a un souci dans la difficulté du titre. Alors, comme c'est un dungeon crawler, il y a un problème de difficulté au tout début du jeu. Mais vraiment, c'est-à-dire que le départ du jeu, les mecs, je sais pas, ils ont oublié de retester le début de leur jeu. Et là, pour l'instant, tu te fais fesser par les monstres assez rapidement. Donc c'est un peu chaud. Alors il y a un scénario, tu montres une équipe d'aventuriers, il se passe des choses dans un monde évidemment où ça va pas bien, avec un vortex, le pilier du désespoir qu'ils ont appelé ça. niveau originalité, on a vu mieux, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, t'as une espèce de brume avec un royaume qui te fait perdre la mémoire, ce qui est très pratique quand t'écris des scénarios et que tu veux faire évoluer des personnages. Donc tu crées ton équipe de perso qui va aller explorer, ramasser des objets, ramasser des coffres, etc. etc. Il faut savoir que quand t'as deux modes de jeu, en fait, t'as un mode où t'es en mode action et un mode, donc mode combat tour par tour, un peu classique. Hein. Et puis, t'as un mode où t'es sur la carte et tu évolues. En fait, à chaque fois que tu bouges, tu perds des points de bouffe et des points de lumière, etc. C'est des ressources qu'il va falloir gérer en permanence pendant que tu te déplaces sur la carte. Et tu dois couvrir un certain pourcentage de la carte pour pouvoir sortir, entre guillemets, sans malus. C'est vite très 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 chaud parce que t'as des monstres planqués dans les fourrés, etc., etc. Et du coup, le jeu, au début, en tout cas, est très punitif. Donc, il faut faire attention. Vous allez voir que dès que vous chopez un peu de matos, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, tout le monde pleure du sang sur le début du titre. C'est vraiment le truc qui revient dans les commentaires quasiment tout le temps. Donc, et le deuxième truc qui revient, c'est que comme nos Coréens adoraient, normalement tu te dis c'est un jeu PC, tu vois, il y a pas de problème. Mais apparemment ils ont vraiment target la Switch comme plateforme de base, et donc il y a pas de support souris clavier pour l'instant qui soit potable. Donc pour jouer sans pad actuellement, c'est une tannée, et ce support n'arrivera que en décembre. Donc vous êtes pas obligé de vous précipiter. Le titre coûte 28€, mais en tout cas voilà, gardez un œil dessus si vous aimez bien les dungeon crawlers un petit peu différents. Il est déjà dispo, mais je pense qu'effectivement vous pouvez attendre tout début 2020 pour aller claquer quelques euros.
Des news du côté de Dota Underlords avec un nouveau patch.
Le gros patch, monsieur.
Le gros patch.
C'est le gros patch.
C'est marqué en gros et en caps dans la conduite, le gros patch.
Oui, parce qu'évidemment, on s'est tous lassés de Dota Underlords. Enfin, c'est tous. On a été nombreux à se lasser de Dota Underlords, puisque là, ça tournait en rond au niveau de la méta du jeu, de ce que tu pouvais faire, etc. Mais ils le savent, hein, t'inquiète. Donc, ils sont en train de bosser. Et là, ils nous balancent un teaser sur leur site blog/patchnote, qui est le site officiel, hein, que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, et ils annoncent en fait au compte-goutte toutes les unités qu'ils ont rajoutées et les nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés dans le gameplay pour équilibrer tout ça. C'est hyper intéressant, je pense que ça va donner un sérieux coup de boost au jeu, parce qu'il y a quand même 12 unités en plus, si je dis pas de bêtises. Et pour éviter que ça soit le bordel, parce que tu dois acheter plusieurs fois la même unité pour pouvoir augmenter de niveau ton unité que tu as sur ton échiquier. Donc si tu rajoutes des unités, mathématiquement, ça va être de plus en plus compliqué de tomber statistiquement sur les bons personnages pour pouvoir les booster. Donc ils ont trouvé une solution à ça qui est assez élégante, c'est qu'en fait tous les jours, t'as un système de prison où t'as des unités qui seront pas disponibles du tout pendant que tu joues ce jour-là.
D'accord. Okay.
Donc ça va tourner en permanence et du coup ça va péter la méta, puisqu'en fonction du jour où tu joues, peut-être que toi, si t'as une compo que tu adores et tu veux absolument ce personnage-là, va jouer autre chose, puisque aujourd'hui il ne sortira jamais. Donc c'est assez intéressant comme système. Je vous invite à aller lire leur site officiel, il y a toutes les explications, et surtout peut-être une date, parce que là pour l'instant on ne l'a pas. Donc je sais que c'est bientôt, mais ils n'ont pas communiqué la date, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé. Alors peut-être que c'est la fatigue, c'est possible, mais écoutez, normalement ça devrait être disponible la semaine prochaine, si j'ai bien compris ce qu'ils étaient en train de raconter dans leur teasing.
Et de news aussi du côté de l'App Store, avec un store dans le store.
Côté iOS, il y a un truc qui vient de sortir qui est assez intéressant, qui s'appelle le Game Club. Le Game Club, c'est un concurrent finalement d'Apple Arcade, qui est basé sur des vieux jeux emblématiques iOS qui n'ont jamais été mis à jour officiellement. Alors c'est rigolo parce que c'est fait par un mec qui s'appelle Eli Odap, et qui est en fait l'ancien rédacteur en chef et le fondateur de Touch Arcade, ça a été le rédacteur en chef pendant plus de 10 ans. Et donc Touch Arcade, c'est le gros site de jeux mobiles qui est dispo sur le web. Et lui, il y a un truc qui le faisait vraiment flipper, c'est la préservation des jeux iOS. C'est un truc qui l'emmerde parce que il y a des jeux qu'il adore, qu'il a testé lui en 2011, 2010, etc. Et ces jeux n'ont jamais été mis à jour. Donc là maintenant, avec le 64 bits obligatoire, les nouveaux téléphones qui sont sortis entre temps, etc., ces titres ne sont plus compatibles du tout. Moi, j'en ai un paquet dans ma ludothèque où c'est le cas, où ça sert même plus à rien de les télécharger. Donc le truc de base de Game Club, c'est de prendre tous ces jeux, d'aller faire des deals avec les mecs qui les ont laissés tomber, de récupérer ce qu'ils peuvent et de faire une version complètement dépoussiérée, mise à jour sur leur store, en fait. Et donc, c'est un système d'abonnement qui vaut le même prix qu'Apple Arcade. Et c'est sorti avec une cinquantaine de jeux. Ils vont en rajouter toutes les semaines, comme Apple Arcade. Et du coup, bah, eux, leur but, c'est d'un côté de redécouvrir, en fait, des vieux jeux à un nouveau public. Et puis de l'autre, bah, de faire connaître l'application avec une fonction qui est juste la killer feature. C'est qu'en fait, si vous n'êtes pas abonné, mais que vous téléchargez l'application et qu'elle détecte avec votre compte, ça va se linker, en fait, avec votre compte Apple. Et là, ça va dire, ah, tiens, vous aviez acheté tel et tel et tel jeu. Et puis, bah, maintenant, nous, on les a. Mais, du coup, comme tu les as achetés avant, bah, tu peux les télécharger gratos dans une version mise à jour.
Nice.
Et alors ça, c'est méga nice, parce que plein de gens auraient fait un plan en mode genre, hey, tu peux y rejouer si tu payes ton abonnement. Et en fait, ils ont pas du tout fait ça, donc c'est la grande classe, ils ont été vraiment hyper malins, mais du coup, plein de gens vont être motivés pour installer l'application, enfin plein de gens, enfin les gens qui vont le savoir, genre vous. Et du coup, c'est vraiment, en termes de, bah, de pénétration de marché, c'est un bon deal, et je trouve ça hyper intéressant. Donc maintenant, moi, il faut que je leur fasse une petite liste avec tous les jeux qui ne sont pas encore dispo à leur catalogue et que j'aimerais bien revoir. Mais ils ont deux grands classiques de la ludothèque iOS qui ne marchaient plus sur les trucs modernes. C'est Smash Gauntlet et Pocket RPG, qui sont deux titres mythiques des années 2011, 2012, etc. Et du coup, bah, quand on voit la qualité des portages et le fait que ça fonctionne depuis un iPad Pro 13 pouces et les derniers iPhone, etc. Et alors qu'à la base, c'était fait pour fonctionner, alors, je sais plus, ça devait être un iPhone 4. Tu vois, c'est, il a fallu upgrader les graphismes, refaire les menus, etc. Donc c'est vraiment du gros boulot. Ça serait absolument pas rentable pour l'éditeur de le faire lui-même, en fait, pour en revendre deux, tu vois. Ouais. Donc là, c'est vraiment très très bien vu. Donc gardez un œil là-dessus. Je vous ai linké le gros papier de Mac Stories sur le sujet. Et moi, j'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'ils vont réussir à trouver leur public, parce que l'idée derrière, pour la préservation justement de la ludothèque iOS historique, est vraiment vraiment très bonne.
Et on va terminer cette section gaming avec un petit taquet qu'on voulait mettre à Bethesda, parce qu'il le mérite.
Ah, Bethesda, tu nous fais rêver, hein.
C'est hallucinant, j'ai vu passer la news cette semaine, j'ai fait, mais les mecs ont peur de rien, en
voilà,
fait.
Voilà, donc je reprends, je vous lis le titre de la news de Numérama que je link et qui résume le problème. C'est Bethesda ose l'abonnement mensuel pour Fallout 76. Donc Fallout 76, je rappelle, un des pires titre de l'année, ne jouez pas à cette bouse, ne perdez pas votre temps. Il y a des gens hein, qui, voilà, Fallout, c'est une religion, il faut y jouer, c'est important, machin, c'est de la merde. J'ai pas d'autre manière de vous expliquer à quel point ce jeu n'est pas bon, c'est une insulte. Et donc là, les mecs sortent un abonnement à 15 balles par mois. Pour ce truc, c'est-à-dire c'est le prix de WoW, hein. Enfin, je sais même pas si pas WoW, tu peux pas l'avoir moins cher que ça. Enfin, si, j'en suis quasiment sûr. Donc là, j'hallucine. Hein. Et du coup, on se dit, bah les mecs, c'est très bien. Donc il y a une phrase hein, de Audiard sur les gens qui osent comme ça. Je vais pas vous la citer. Je pense que vous la connaissez. Et très honnêtement, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça parce que même si vous êtes fan, il y a un moment où faut vous faire respecter. Et il y a un moment où il y a des messages à faire passer. La seule manière de le faire passer, c'est en attaquant le carnet de chèques de ces gens. Enfin. On en trouve en tout cas ne pas donner d'argent de votre carnet de chèque à vous. Donc voilà, il y a que ça qui comprennent. Et là, je vous laisse aller voir la news de Numérama pour voir ce qui est offert pour ce prix-là. C'est une insulte. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et je pense que les fans de Fallout sont juste dégoûtés. Et alors après, est-ce qu'ils ont décidé d'aller sur le marché des gens qui étaient désespérés à ce point-là? Moi, je pense qu'ils sont déjà tous chez Star Citizen. Donc normalement, il y en a plus, quoi. Mais voilà, on se tient au courant. J'espère que ce truc-là va flopper très très vite, parce que sinon ça va donner des idées à tout le monde, et on n'a pas besoin de ça dans le jeu vidéo. Je crois qu'on a déjà notre lot d'escrocs, et c'était pas la peine d'en rajouter. Voilà, c'est tout, c'était juste pour vous dire ça.
Ça c'est fait. Allez, on passe du côté des apps avec une nouvelle version de Ghost.
Alors Ghost, qu'est-ce que c'est? C'est un truc pour faire des sites web. C'est un concurrent de WordPress, je vais faire grincer des dents si je dis ça, mais c'est un framework pour faire de la publication en ligne. Je voulais en parler parce qu'en fait c'est un truc qui existe depuis très longtemps, qui est fait par une boîte qui n'a pas pris d'argent chez les venture capitalistes. Ils ont fait un communiqué de presse assez rigolo en disant qu'ils avaient levé 5 millions de dollars, mais c'était juste pour dire, bah, en fait, vous nous avez donné 5 millions de dollars depuis qu'on a créé la boîte, donc bah, merci. C'est grâce à vous qu'on est toujours vivant et que ça marche plutôt bien. Donc ce truc-là est très très mal connu, en fait, chez nous. Souvent, on connaît que WordPress. Enfin, les mecs, ils se disent, tiens, j'ai besoin d'un site et tout, je vais le faire, je vais aller publier soit sur Medium gratos, soit je vais me faire un WordPress, etc. Bah, Ghost, c'est un truc à connaître, et cette version 3 2.0 a plusieurs avantages. Déjà, elle est très bien codée et c'est vraiment hyper propre à utiliser, même si évidemment c'est une 3.0, donc il y a quelques bugs, et quand tu vas sur le forum, il y a des trucs où ça ne fonctionne pas bien encore, mais c'est normal, c'est une nouvelle version. Ils ont rajouté un truc qui nous intéresse en fait, qui est une gestion directe des abonnements et des membres, du coup, en natif, avec un paiement direct. Donc un truc pour brancher directement sur les plateformes de paiement. Et bon, comme nous, on voit d'un œil un petit peu circonspect les évolutions de Patreon, il y a un moment où on va se poser des questions. Et en fait, ce genre de choses, alors à mon avis, ça va arriver dans WordPress, parce que WordPress n'aime pas trop se laisser distancer sur ce genre de trucs. Il y a déjà des plugins qui permettent de faire ça. Mais là, comme c'est géré en natif, c'est vraiment propre, vraiment bien fait. J'ai regardé un petit peu la gueule que ça avait. L'intégration est vraiment bien. Donc voilà, si vous cherchez des plateformes pour les blogs de votre boîte, même des trucs perso, etc., sachez que évidemment c'est comme WordPress, donc vous pouvez le télécharger, le hoster sur votre serveur et c'est gratuit. Et sinon, vous leur payez une petite dîme pour aller directement chez eux et pas vous emmerder avec tout ça. Donc alors c'est pas donné, faut en avoir l'utilité quand vous payez directement. Mais le projet est vraiment sympa. Il leur manque toujours cette fameuse galerie d'images, la galerie média, qui est pour nous, en tout cas en termes d'édition, assez pratique. Quand on fait nos vendredis, qu'on a juste tapé vendredis, qu'on a notre sélection d'images et boum, là il faut aller chercher ton lien, il faut le faire à la main, etc. C'est quand même, c'est moins cool. Mais voilà, à part ce truc là, le reste est vraiment très très bien foutu, et pour les gens qui savent coder, c'est une plateforme très intéressante.
Ghost 3.0 donc, et puis une nouvelle version de Firefox.
Firefox 70, on en reparle pas 150 000 ans, je voulais juste dire un truc, c'est Firefox, ils ont changé le logo. C'est très beau, ça va très vite. Ils ont maintenant fait un truc que j'attendais depuis très longtemps, c'est l'optimisation de l'affichage sur Mac. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir un navigateur qui bouffe vraiment moins la batterie par rapport à ce que faisaient les anciennes versions. Il faut savoir que Safari reste évidemment le truc natif qui bouffe le moins la batterie sur Mac, ce qui est un petit peu logique. Mais là, Mozilla a un vrai programme de dev du côté de l'affichage et la gestion de l'affichage sur Mac. Et du coup, pour les batteries, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'ils ne changent que les trucs qui changent sur votre écran, etc. Donc là, ils vont rajouter des choses au niveau de la gestion du scrolling aussi, en s'appuyant sur les librairies Apple plus que ce qui est fait actuellement. Et donc, ça évolue dans le bon sens. Le seul truc qui m'emmerde toujours, c'est que il y a toujours pas la détection automatique de la langue, en fait, quand tu fais la correction orthographique automatique dans le navigateur. Et ça, c'est un petit truc un peu pénible, parce que je l'ai dans les autres. Et du coup, j'aimerais bien que ça existe dans Firefox, s'il vous plaît, messieurs.
Et on passe du côté de la culture, et dans la série, on n'est pas du tout d'accord, mais on vous en parle quand même. Je voulais vous parler de Living With Yourself. J'ai fait une petite news cette semaine sur Geekzone pour en parler. C'est assez rare que je parle de séries télé sur Geekzone, d'ailleurs je devrais le faire plus souvent. Mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur, et manifestement un coup de cœur que tu ne partages pas, mais on va avoir l'occasion d'en débattre très vite à la fin. Donc ces nouvelles séries Netflix, et Netflix ces derniers temps, c'était un peu des hit and miss, et surtout des miss en fait. Donc là j'étais plutôt agréablement surpris. C'est une série qui a été créée par Timothy Greenberg, qui est un ancien producteur exécutif du Daily Show de Jon Stewart. Et le pitch donc, c'est l'histoire d'un rédacteur dans une agence de pub, Miles Elliott, qui est incarné par Paul Rudd, qui traverse visiblement une grosse dépression, et donc sur les conseils d'un de ses collègues, il va se rendre dans une espèce de mystérieuse station thermale, un spa comme disent les anglophones, pour y suivre un traitement expérimental qui est supposé donc lui faire retrouver la joie de vivre. Alors je vous spoil rien, c'est dans le premier épisode, donc il va rapidement découvrir qu'en fait, en termes de traitement expérimental, c'est surtout en fait de lui faire un clone amélioré, de tuer l'originel et de laisser le clone vivre sa vie, donc il sera potentiellement meilleur. Donc malheureusement ça se passe pas comme prévu, parce que l'original ne décède pas comme c'était initialement calculé, et donc il se retrouve avec son double en fait, et il va devoir gérer ce double en fait au quotidien. Ce double qui forcément réussit tout mieux que lui, qui est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus à l'aise, etc. Donc c'est une manière très originale, on va dire, de traiter un peu la dépression, et puis ce côté qu'on a, moi c'est quelque chose qui me touche, parce que c'est quelque chose que j'ai traversé aussi. Donc quand on a une période un peu de doute dans sa vie, où on se sent pas bien dans sa peau, on a l'impression que tout le monde fait tout mieux que soi, et là pour le coup c'est une autre version de lui qui réussit beaucoup mieux, et donc ça va l'amener à se poser pas mal de questions, à se remettre en question aussi. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment drôle, touchant, et en plus techniquement très réussi, puisque c'est Paul Rudd qui incarne forcément les deux rôles. Donc techniquement je trouve qu'il y a vraiment rien à dire, c'est très bien foutu. Il y a des scènes où ils sont en train de se parler, et tu sens pas à aucun moment que c'est le même acteur en fait qui a joué deux fois la scène. C'est vraiment super raccord et super fluide, et ça m'a sans doute touché moi personnellement, parce que voilà, ça m'a parlé à plusieurs niveaux, notamment au niveau des remises en question. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 8 épisodes de 30 minutes, donc ça se mate assez vite. Moi j'ai tout bingé en une soirée. et vraiment je recommande si vous voulez alors on va en parler, mais
non.
si vous voulez une série un peu légère et un peu concon aussi,
un
parce
peu légère
effectivement, oui un peu légère je trouve, tu trouves pas ça léger toi?
Bah non, mais alors bon, parce que là, ça me touche maintenant peut-être, mais
c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont quand même assez dark, assez sombres, mais je trouve que malgré tout on sourit quand même souvent, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup souri, mais il y a quelques vannes qui font mouche.
Je te laisse finir, hein, mais
non, mais j'ai fini, voilà, j'ai vendu ma soupe, maintenant voilà. C'est à toi de dire pourquoi il faut pas
l'acheter. Bon, déjà si vous avez un abonnement Netflix, il faut rentabiliser, donc allez le mater, puis
exactement.
Comme ça vous donnerez votre avis sur le forum. Non, moi j'adore Paul Rudd, je suis un énorme fan de Paul Rudd et je trouve le casting très très bien fait. C'est en fait, j'ai le même problème que souvent dans ce genre de truc, c'est que ça part dans toutes les directions, ça ouvre plein de portes et il y en a plein qui sont pas fermées à la fin. J'ai trouvé le final pourri. Parce que ça répond à rien, et puis du coup on a une solution, tu fais genre non. Non, alors je veux pas spoiler, hein, tu vois, mais c'est vraiment le feeling que j'avais à la fin, c'était genre ok et so what. Et j'ai vraiment attendu il y a plein de trucs qui sont ouverts sur les mecs qui sont derrière le cloning, etc. Alors c'est pas une série de SF, hein, on est d'accord,
non,
que
c'est
ça
plus
n'est jamais...
un prétexte en fait, je trouve, hein,
oui, mais du coup il y a des scènes, il y a des trucs qu'ils ont ouverts qu'ils auraient pas dû ouvrir si c'était le cas, tu vois. Alors je veux pas spoiler, c'est hyper chiant les mecs, hein, mais
ouais,
bon,
ouais.
Tu vois, il y a une scène avec la licorne, tout ça machin, c'est qu'est-ce que ça fout là, tu vois. Si vous voulez pas en parler, vous en parlez pas, mais nous faites pas genre hey, regarde, il y a un truc derrière. Bah non, puisque du coup t'en reparles jamais, mec. Donc et en fait il y a plein de trucs comme ça qui m'ont agacé dans la gestion de l'intrigue, où je me dis bah oui, je vois ce que vous vouliez faire, mais du coup là t'en as trop fait, vous en avez trop rajouté sur certains endroits, où du coup bah t'attends des réponses parce que c'est juste une réaction logique, et tu les as jamais, et ça je ne supporte pas, et il faut pas me faire ça dans une série télé, ça m'énerve, mais putain, tu vois, c'est voilà, tu me fais pas revenir Starbucks avec l'intervention divine, tu vois ce que je veux dire. C'est, il y a des trucs où non les mecs, non, là je suis pas d'accord. Vous allez rembobiner, vous allez m'enlever cette merde tout de suite. Donc voilà, c'est après pour le reste je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est voilà, il y a des trucs scénaristiquement où je pense que les mecs se sont un peu marchés sur les pieds et on s'en serait bien passé.
Voilà, donc Living With Yourself, on vous invite à aller voir ça par vous-même et à venir en parler sur le forum de Geekzone pour nous donner votre avis. Culture toujours, mais très vite, juste pour signaler, parce qu'apparemment ça intéressait pas mal de gens, j'ai eu beaucoup de réactions sur Twitter, j'étais assez surpris, je pensais être le seul à encore écouter du Chris Rea.
Non, t'es le seul, hein. Faut que t'arrêtes de faire des faux comptes pour te répondre, sans déconner, ça va se voir, quoi.
T'es méchant. Donc Chris Rea, c'est un musicien britannique en activité depuis très très longtemps, il a 68 balais aujourd'hui, et là il vient de ressortir en fait 5 de ses albums emblématiques des années 80 et 90 dans des éditions deluxe remasterisées. Alors les albums en question, c'est Shamrock Diaries, On the Beach, Dancing with Strangers, The Road to Hell et Auberge, et chaque album a donc été remasterisé, agrémenté d'inédits, des démos, des versions live qui sont vraiment pour le coup très très chouettes, et puis quelques remixes, mais pas beaucoup, c'est surtout les versions étendues d'époque. Donc pour ceux qui comme moi aiment bien les vieux 12 pouces des années 80, ben voilà, c'est l'occasion de les retrouver dans de bonnes qualités remasterisées. Je vous linkerai un papier qui donne les tracklists complètes de ces rééditions, et puis il a sorti également un album en série limitée qui s'appelle One Fine Day, qui est en fait un album qui avait initialement été enregistré en 1980 mais qui n'était jamais sorti officiellement. Alors il avait récupéré certains des morceaux, il en avait réenregistré des nouvelles versions, il les a mis sur ses albums suivants ou en face B de single, mais en gros cet album en tant qu'objet n'est jamais sorti, donc là ils en ont fait une version telle qu'elle aurait dû sortir en 1980. Donc pour les fans de l'artiste, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Voilà, ça y est, ça s'est fait.
Ah.
Et pour se détendre un peu, on va se passer, mais très vite, un petit extrait de On the Beach, parce qu'on aimerait tous être sur la plage là en ce moment.
Ah oui. Between the eyes of love, I call your name. Behind the guarded walls, I used to go. Takes me back to the place that I know.
on the Beach, donc tiré de ses éditions Deluxe remasterisées de Chris Rea. On passe du côté de la tech avec une nouvelle Nvidia Shield.
Incroyable. Cette bestiole ne veut pas mourir et Monsieur Nvidia continue de faire des mises à jour. C'était un leak au départ, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment voulu, je crois, l'annoncer au moment où c'est sorti. Mais bon, bref, il y a un papier complet sur Mini Machine que je vous link dans le billet qui accompagne le podcast. Et en fait, la grosse blague, c'est que tu as deux machines qui sont prévues en fait pour dans bientôt, parce que forcément, du coup, on n'a pas vraiment les dates. Et il y en a une qui est assez spécifique en termes de design, puisqu'ils ont sorti donc dans ce truc, c'est une nouvelle Shield, mais en tube. Voilà, t'imagines un tube qui se pose, qui est d'ailleurs qui fait la taille visiblement de la télécommande, qui elle aussi change pour devenir un gros triangle rétroéclairé avec un gros bouton Netflix en bas. Le tube se branche de le côté. D'un côté, t'as les prises HDMI. De l'autre côté, tu vas avoir les sorties Ethernet et les boutons Power, enfin la prise pour brancher le câble d'alimentation. Et j'avoue que bon, bah le design est un peu chelou. Hein, je suis pas entièrement vendu sur le concept, mais bon, c'est vous irez voir la gueule du truc sur le site de Mini Machine, c'est bien expliqué. Le truc intéressant à savoir, c'est que effectivement, ça serait du Tegra X1 Plus. Alors si vous ne connaissez pas ce puce, ben en fait vous la connaissez, c'est ce qui a été mis, si je ne dis pas de bêtises, dans les nouvelles Switch de Nintendo, celles qui consomment moins de batterie. C'est en fait la même puce mais un petit peu optimisée, qui consomme moins, qui du coup est plus pratique à mettre dans ce genre de bestiole. Et a priori en 2020, pour ceux qui n'aiment pas les tubes, il y aura aussi une Shield Pro qui va sortir, alors qui à mon avis aura exactement le même matos à l'intérieur, mais qui grâce à cette nouvelle puce va elle aussi bénéficier des 25% de perf en plus et qui aura la même télécommande. Donc on attend de voir ce que ça va donner et normalement ça va rester dans des prix ultra bas, puisqu'on parle d'un prix d'entrée sur la Shield nouvelle version de $150 aux États-Unis. Donc ils se positionnent très très bien. Et puis j'en profite pour dire que même si vous avez la Shield d'origine, ils continuent de faire des mises à jour hyper régulièrement et que je suis après, enfin je pense que c'est le produit Android avec le meilleur suivi de la planète.
Point. Ce que j'avais dit, en plus, ça a l'air d'être un des produits les plus populaires aussi. Enfin, ça marche bien.
Ça a bien marché. Et en fait, c'est la TV Box. Quand tu veux pas acheter une TV Box Android chinoise, entre guillemets, ou support assez aléatoire très souvent, c'est vraiment, enfin, je vois pas l'intérêt des autres, en fait. Je dois être très honnête avec vous. Si vous voulez pas d'une Apple TV et que vous voulez une box à brancher, je trouve que vraiment, la Shield, en termes de rapport qualité-prix, elle est vraiment bien fichue. Après, faut supporter Android TV, l'interface elle-même, mais elle est pas pire. Enfin, je veux dire, je comprends qu'on n'aime pas l'interface de l'Apple TV aussi, tu vois, il n'y en a pas une qui soit parfaite. Donc voilà, c'est en fonction de l'écosystème et du matos qu'on a chez soi, et le rapport qualité-prix est vraiment intéressant dans les deux cas. Donc voilà, ça sera hyper intéressant. La Shield Pro, les seules infos qu'on a, ça serait qu'il y a 3 Go de mémoire vive dedans et 16 Go de stockage, et celle-là, normalement, elle serait proposée à $200. Donc vous avez toutes les infos, et normalement tout ça arrive le 28 octobre prochain. Et effectivement, c'était au début, quand on a vu les premiers leaks, non, je vous disais une bêtise tout à l'heure, je me reprends en live, alors que c'était pour éviter du montage à mon ami.
Merci.
Qu'en fait, c'était à la base, il y a eu un leak, mais en fait, depuis, ça a été annoncé officiellement. Donc, je m'auto-corrige dans le même truc, parce qu'effectivement, tout le monde pensait qu'ils attendraient le CES 2020 pour annoncer ça, et en fait, Nvidia, ils ont fait non, on va en vendre à Noël, ça va bien se passer. Et vous avez les papiers d'origine à la fin de l'article de Mini Machine en français, Killing the Verge et un autre site pour justement expliquer tout ce qu'il y a dans cette nouvelle petite boîte. Si vous n'êtes pas encore équipé ou que la vôtre est en train de battre de l'aile, ce qui serait étonnant parce que c'est solide cette saloperie, vous pouvez aller voir et commencer à faire vos petites économies.
Et puis c'était hier l'audience de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain pour y défendre le Libra, j'allais dire la Libra, mais c'est le Libra. Le Libra, donc c'est cette crypto-monnaie parrainée par Facebook qui voudrait bien lancer début 2020. Crypto-monnaie qui est assortie de grosses promesses, hein, puisqu'ils promettent l'accès au système financier pour tous, sans avoir besoin d'avoir un compte en banque, y compris dans les pays les moins développés. Donc il y a un côté un petit peu utopique dans toutes ces jolies promesses. On rappelle en deux mots que ça devrait normalement être géré par un consortium indépendant, qui serait donc indépendant de Facebook, dans lequel on retrouvait, je dis retrouvait, vous allez voir pourquoi, des sociétés financières comme Visa et Mastercard, des sociétés commerciales comme Uber et Spotify, des organisations non gouvernementales, des institutions académiques, bref, Facebook essaye de se détacher un petit peu du côté « c'est nous qui contrôlons le truc », alors qu'en coulisses, on sait quand même que c'est eux qui ont un peu la main mise sur le projet. Alors je disais retrouver parce que ben, y a déjà des gens qui se sont barrés de ce projet, et notamment des membres fondateurs comme Visa et Mastercard, ce qui fait un peu tâche. Ils sont pas les seuls, hein. Je crois qu'ils sont 9 pour le moment ou plus. Enfin, il y a une petite dizaine de boîtes déjà qui se sont détachées du projet. Faut savoir que le projet a un énorme mauvais buzz en ce moment. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Congrès avait demandé à entendre Mark Zuckerberg sur le sujet. Il y a de l'eau dans le gaz depuis plusieurs mois. Il y en a qui se sont barrés. Il y a plein de problèmes. Le principal, c'est que ça installe un mélange ce qu'on pourrait appeler un mélange des genres, c'est-à-dire que à la fois d'un côté on aurait Facebook qui pourrait croiser toutes nos données personnelles et Dieu sait qu'ils en collectent, et nos données financières, ce qui le placerait quand même dans une position jamais vue en termes de profilage. Donc ça fait déjà très très peur. On n'a aucune idée non plus des possibilités d'interopérabilité avec les autres portefeuilles de crypto-monnaies. Donc on ne sait pas si Libra va être une espèce de standard fermé auquel personne d'autre n'aura accès, ce qui pourrait être problématique aussi avec tous ces soucis de monopole, etc. Et puis, il y a aussi des craintes sur la transparence. Hein. On sait que Facebook n'est pas le roi de la transparence. On ne va pas vous citer toutes les affaires qui traînent comme des casseroles depuis des mois. Donc, ça fait un peu peur. Du coup, les membres du Congrès ont voulu entendre Mark Zuckerberg. Ça a été aussi l'occasion de remettre une petite couche sur tous les travers qu'on impute à Facebook, la dissémination des fake news, son rôle dans la manipulation des élections présidentielles de 2016, et plus globalement dans ce que certains membres du Congrès n'ont pas hésité à appeler une destruction active de la démocratie. Alors, comme d'habitude, Mark Zuckerberg a fait du Zuckerberg, c'est-à-dire qu'en gros, il a démenti mollement toute volonté néfaste, il a défendu Facebook en ne répondant pas aux questions qui prêtaient à controverse. En gros, c'est sa stratégie depuis le début, chaque fois qu'il est entendu par des appareils d'État, c'est de dire « Ah ben ça, je sais pas, je vais demander à mes assistants, on vous recontactera ». Donc il botte en touche, ce qui finalement n'a pas beaucoup fait avancer le schmilblick. Et donc, finalement, à l'issue de ces 6 heures d'interrogatoire, pas grand-chose de neuf, en tout cas rien de rassurant du côté du Libra. Libra qui prend quand même, comme on disait tout à l'heure, fort lourd en ce moment, donc on ne sait pas trop si le projet va réussir à se concrétiser. Mais voilà, on voulait faire un petit peu le point là-dessus, on va suivre ça d'un œil attentif, parce que c'est pas anodin en fait, on n'en parle pas beaucoup dans la presse généraliste pour le moment, où on en parle mal, et c'est vrai que c'est quand même pas anecdotique, faut pas regarder ça d'un air curieux, faut vraiment s'y intéresser. Je pense que c'est, si ça passe, ça peut vraiment changer la donne, et renforcer encore le pouvoir de Facebook, qui est de plus en plus énorme, on va pas se voiler la face, hein. Le contrôle des informations qui nous arrive, la manipulation des informations, et à ce niveau-là, ils sont pas vraiment super bien placés pour montrer patte blanche. Je sais pas si ça t'inspire, toi, la crypto-monnaie, moi, ça m'a jamais touché, donc...
Non, moi, j'ai l'impression qu'on en avoir.
Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que surtout, en ce moment, en plus, c'est pas vraiment là-dedans qu'il faut investir sa thune.
Ça dépend si tu t'appelles Satoshi ou pas, mais... En fait, la problématique, souvent, sur les crypto-monnaies, c'est que les gens ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, surtout sur un projet comme Libra, qui est bien plus qu'une simple crypto-monnaie, entre guillemets.
Le problème, en fait, je t'interromps pour dire ça, c'est que le problème, c'est qu'en fait, Libra serait complètement détaché de toute monnaie réelle, en fait.
Donc,
il ne serait pas lié au dollar. Et donc, ça fait très, très peur, évidemment, à l'establishment américain qui se dit, mais c'est un risque, en fait, pour non seulement la stabilité du marché, mais aussi pour la stabilité de l'État, tout simplement, quoi.
Et je pense que c'est là où ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que du coup, ça ne passera jamais, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que les mecs ont cru qu'ils étaient capables, qu'ils étaient assez gros pour le faire, et il y a des gars qui ont fait genre minute papillon, toi tu vas te calmer tout de suite. Donc je pense que ça c'était une de leurs erreurs, mais après derrière non, les cryptos c'est un business de taré, il se passe plein de choses, mais l'anonymisation et le non contrôle des transactions c'est un vrai problème, et quand tu sors du pays des bisounours et des bonnets en laine fait avec du mouton éco et bio, il y a un souci, et tu t'en aperçois déjà que dans les trucs qui sont censés être fliqués, ça arnaque de partout, et que ça n'a jamais empêché les mecs de faire les pires trafics, je me dis que bon, il y a un souci, et que de toute façon, tant qu'il ne sera pas réglé, ça va être une problématique, et que ça renforce l'agenda des gens qui veulent tout contrôler.
Ouais.
et bah c'est pas une bonne nouvelle. Donc tu vois, c'est on a toujours cette frontière entre on veut de la liberté sur Internet, mais oui. À côté de ça, en termes de technologie, on est en mode genre ah oui, mais ça c'est hyper intéressant, on devrait trop le faire. Mais les mecs qui l'inventent, c'est clairement des bisounours. Après, des fois, t'as des mecs qui inventent des trucs, tu sais direct que toi, tu vas avoir un sac de l'enfer juste pour toi. On s'était partagé un truc cette semaine avec des mecs qui faisaient un badge pour bien fliquer les employés au taf. Et tu te dis, mais déjà, quand t'inventes un truc pareil, enfin, tu mets, c'est quel niveau de sans race, quoi, tu vois.
C'est ça.
Donc le Libra, non, ça va être un vrai problème. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais à mon avis, ça va monter assez haut et on va sortir de la sphère technique pour rentrer dans des problématiques de politique et d'économie générale assez vite, quoi.
Bah, la grosse pierre d'achoppement entre le Congrès et Zuckerberg en ce moment et Facebook de manière générale, c'est que, le Congrès voudrait que ce soit régulé comme une banque, en fait. Et Zuckerberg lui dit, en fait, on n'est pas une banque, on est un porte-monnaie. Donc, c'est pas la même chose.
Ouais,
donc, tu vois, on sent qu'il y a une espèce de mauvaise foi du côté de Facebook, ce qui ne nous surprend pas.
On se prend un taquet, ça va aller très, très vite. Hein. Je pense que ça va être très, 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 très compliqué pour lui de s'en sortir sur ce coup-là et surtout avec une coupe de tif pareil, quoi.
Alors, on vous invite à vous intéresser au sujet et pour vous y aider, je vais vous linker un papier très bien foutu de Gizmodo qui résume un peu tout ce qui tourne autour du Libra. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est supposé fonctionner? Ce qu'il y a derrière? Et quelles sont les problématiques liées donc justement à cette nouvelle crypto-monnaie? Comme ça, vous pourrez en très peu de temps faire un peu le tour de la question et vous informer et vous tenir au courant parce que l'air de rien, ça va avoir son importance. Et puis, on va terminer cette section tech et ce 106e podcast avec des news du côté des bugs d'iOS 13 et de macOS Catalina.
Ouais, alors moi je vais même pas parler des bugs, en fait je voulais juste vous linker un article pour ceux qui lisent l'anglais et qui s'arrachent les cheveux actuellement ou qui sont sur Android et qui veulent des raisons de se moquer mais des vrais qui sont en fait les six, c'est un papier qui est sorti qui s'appelle 6 raisons pour expliquer la foire aux bugs sur iOS 13 et macOS Catalina. Donc la version anglaise qui est sortie chez Tidbits, qui est un papier écrit par David Shire, qui est un mec qui a bossé 18 ans en tant que dev chez Apple, donc il sait un peu de quoi il parle, et qui résume en fait pourquoi on a des autant de conneries dans iOS 13 et Catalina actuellement, et en fait qui met le doigt là où ça fait mal, hein, sur les problématiques de fonctionnement interne et la façon dont les mecs chez Apple gèrent certains bug reports. Alors je n'ai pas la prétention de dire que le mec a raison et qu'il a la vérité ultime, hein. Je pense qu'il y a plein de devs chez Apple qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce tissu de conneries, mais au moins ça vous fera une lecture intéressante avec des trucs qu'on ne sait pas forcément, la façon dont sont gérés les crash reports par exemple quand vous avez un programme qui plante, qui récupère quoi, comment ça fonctionne, etc. Donc rien que pour ça, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté de la gestion des régressions, en fait, des bugs, et ce côté patate chaude que personne ne veut aller gérer, en faisant genre non, c'est pas une régression ça, donc je fixe pas. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des bugs qui sont jamais fixés. Apparemment, Apple a même des t-shirts où il y a marqué not a regression. les mecs veulent absolument pas s'en occuper, et ça explique pourquoi certains bugs survivent de version en version aussi longtemps, parce que personne ne veut vraiment mettre les mains dedans, en disant mais c'est pas mon code, ça je n'y vais pas. Donc un bon petit papier à lire, c'est pas très long, c'est assez rigolo, et évidemment ça s'étripe dans les commentaires, donc je vous laisse vous amuser avec ça. Je pense que les mecs vont y passer le week-end, parce que le papier est sorti il y a pas longtemps, donc les commentaires, je crois que ça va être une source infinie de lol. je vous dis, hein, si vous êtes un fan d'Android et que vous n'en avez rien à foutre d'Apple, ça va vous faire marrer, au moins pour une fois vous aurez un papier à ressortir de temps en temps quand on vous dira, hey, regardez, il travaille pas bien. Voilà, ça vous évitera de dire des bêtises comme vous faites d'habitude.
Et c'est la fin de ce Torréfaction 106. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. On va essayer de profiter un petit peu du week-end quand même cette fois-ci.
Ouais.
Se débrancher le cerveau, aller faire un peu de gaming. Tu m'as bien intrigué là avec ton jeu.
Disco Elysium.
Avec Noita aussi, surtout.
Ah, non, Noita, ouais. Noita. Va péter les trucs dans Noita, c'est cathartique. Voilà, c'est
on va se défouler. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end, bonne semaine. À bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers. We'll be right back.
How's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?